Bonjour micro. Dis bonjour au micro. Bonjour micro. J'aurais bien lu du Von Kleist. Parce que j'ai un magnifique petit livre, je suppose. Les initiés connaissent. Les autres ne m'intéressent absolument pas de toute façon. Qui s'appelle Sur le théâtre de marionnettes. Qui est un bouquin tout à fait extraordinaire. Von Kleist, qui était un avocat allemand. Explique en fait le rapport qu'il y a entre la danse qui s'établit entre la marionnette et le marionnettiste et fait une analogie avec l'art de la danse. Mais bon, et après il y a un petit texte qui s'appelle, je vais aller chercher, tiens. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire celui-là. Mais bon, je suis un peu comme qui dirait l'autre, j'ai quelques poils dans la main quand il s'agit de... Enfin bon, allez, on va dire que c'est pour la postérité. Hein. Celui-là aussi, c'est pour la postérité. Tiens. Oui, parce que, tu vois, on dit toujours qu'il y a la vulgarité. Hein. Ben, je pense que elle ne se situe pas où on croit qu'elle se situe. Mais elle se situe exactement où elle se situe. Je viens de croiser encore je ne sais pas combien de pauvres types qui sont en train là de quémander quelques pièces dans la rue. Enfin bon, soit. Donc, je veux dire que la vulgarité, c'est tous ces connards qui encaissent leur trésor dans les banques et qui substituent leur existence à l'existence de leur or et que... Bon, allez, soit. Bande de fils de pute. Donc c'est Heinrich von Kleist. Heinrich von Kleist. Donc, est-ce que je dois bien le présenter? Ouais, parce que vous êtes tous une bande d'incultes, évidemment. Ben merde, allez vous faire foutre. Donc, ça s'appelle De l'élaboration progressive des pensées dans le discours. Je recommence. De l'élaboration progressive des pensées dans le discours. Donc, ça commence comme ça. Donc il écrit à Raoul von Lillenstern, qui était un pote à lui, quoi, et disons les choses clairement. Veux-tu savoir une chose que la méditation ne te permet pas de découvrir? Alors, cher ingénieux ami, je te conseille d'en parler à la première personne connue que tu rencontres. Est-ce qu'on situe bien ce que le gars veut dire? Non, je recommence. Veux-tu savoir une chose que la méditation ne te permet pas de découvrir? Hein, genre t'as envie de savoir un truc mais tu réfléchis sur le bazar mais t'arrives pas à trouver. Alors cher ingénieux ami, bon, ça c'est son pote, je te conseille d'en parler à la première personne connue que tu rencontres. Genre tu prends n'importe quel connard dans la rue, tu l'arrêtes et tu lui parles de ton bazar, tu vas voir pourquoi. Bon. On a dit que j'arrêtais de déconner. Allez, on a dit. Nul besoin justement d'un esprit à la pensée aiguë, tu vois, n'importe quel connard. Nul besoin, justement, d'un esprit à la pensée aiguë. Je ne veux pas dire que tu dois l'interroger à ce sujet. Non. Genre, tu lui parles pas de ce que tu penses. Mais tu lui parles juste pour lui parler, quoi. C'est plutôt toi qui dois d'abord lui en parler. Bon, alors je recommence. Hein. Bon, on a bien situé le sujet? Très bien. Oui, je sais, je suis un peu clown, excusez-moi. Même devant un micro, je fais le clown. Alors, bon. Quoi, je suis pas drôle? Je suis pas drôle? C'est ça que tu dis? Je suis pas drôle? Hein? Je suis un intello, pas drôle, c'est ça? D'abord, je suis pas un intello. Hein? J'aime lire, j'aime apprendre des trucs, j'aime bien faire des liaisons entre les machins, tu vois. Je suis pas ici pour... tu vois, je suis ici pour quoi? 60 ans sur cette putain de planète? Et c'est quoi quand même pas que je vais passer mon temps? Bon, hein? Quoi? À vendre des trucs? Non, ça m'intéresse pas. Donc, je suis pas intellectuel, c'est juste que j'ai envie de comprendre où on est. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Hein. Quoi, toi, tu peux vivre comme ça. Ouais, c'est ça. Tu peux vivre. Toi, tu passes à côté des choses comme ça. Tu dis, ah oh, ouais, ça c'est vert, ça c'est rouge, ça c'est orange. Oh, c'est une feuille. Oh, c'est un arbre. Oh putain, t'as vu une télé. Oh ouais, c'était quoi la dernière émission, machin et tout. Eh ben non, moi je te dis, il y a des gens qui ont assis leur putain de cul sur des chaises. Hein, et je peux te dire qu'écrire, c'est chiant. qui ont assis leur cul sur des chaises pendant des jours et des jours et des années pour raconter la façon qu'ils avaient de voir le monde, hein, pour un peu te transmettre, toi, espèce de connard qui passe ton temps à écouter la radio, à écouter la télévision et tout, à lire les magazines et à vendre des objets que tu fabriques les journées. Non mais tu... Attends, et oh, t'es sûr que ça va dans ta tête? Hein? T'es sûr que t'es... Allez, et les bœufs, là, et les bœufs? T'as pas envie de te réveiller un peu, là? Tout. Bon, allez, je m'énerve, je recommence. Non, c'était pourri. Regarde, rigole. Bon, on a ri, quoi. Donc. Veux-tu savoir une chose que la méditation ne te permet pas de découvrir? Alors, cher ingénieur... Putain, t'as vu dans quel état ça me met, vieux. Bon, allez, arrête de rire, Pierre. Et c'est parce que j'ai pas de pinard, j'ai pas de bière, j'ai rien aujourd'hui, tu vois. Je suis un peu... Je suis tout chose, quoi. Bon, allez. Est-ce que je vais le lire, ce texte, ou pas, quoi? Hein? Oui? Allez, je vais le lire. Veux-tu savoir une chose que la méditation ne te permet pas de découvrir? Alors, cher ingénieux ami, je te conseille d'en parler à la première personne connue que tu rencontres. Nul besoin, justement, d'un esprit à la pensée aiguë. Je ne veux pas dire que tu dois l'interroger à ce sujet, non. C'est plutôt toi qui dois d'abord lui en parler. Je te vois, il est vrai, ouvrir les yeux tout grands, puis me répondre que tu as reçu dans tes primes années le conseil de ne parler de rien, sinon de choses que tu ne comprends déjà. Mais à l'époque, tu parlais, à n'en pas douter, avec l'impertinence d'instruire quelqu'un d'autre. Et moi, j'entends que tu le fasses avec l'intention raisonnée de t'instruire toi-même, et peut-être même bien que, différente pour tous les cas différents, ces deux règles de sagesse coexistent sans mal. Le français, il dit le français parce que lui c'est un allemand, le français dit « L'appétit vient en mangeant ». Et cet adage dicté par l'expérience demeure vrai lorsqu'on le parodie pour dire « l'idée vient en parlant ». L'idée vient en parlant. Ça, c'est le sujet du texte, hein, pour les ceux qui ne suivent pas là. Bon, hein. Alors, souvent, assis à ma table de travail et penché sur les dossiers, je cherche, dans un procès embrouillé, l'angle sous lequel on pourrait bien le juger. J'ai pour habitude, alors, de regarder la lumière, qui est le point le plus clair, en m'efforçant de dissiper les ténèbres dans lesquelles le plus profond de mon être se trouve pris. Ou bien je cherche, si un problème d'algèbre se présente à moi, par où l'aborder, l'équation qui exprime les relations fournies et dont découle ensuite facilement par calcul la solution. Et tiens, si j'en parle à ma sœur qui travaille, assise derrière moi, voilà que je tombe sur ce qu'une rumination de peut-être plusieurs heures n'aurait pu extirper de moi, connard, il n'y a pas de thé à pu. Sinon c'est une pute, c'est autre chose. Donc en gros, il est en train de dire que s'il réfléchit à un truc et qu'il essaye de complètement réfléchir point par point, c'est très mathématiquement la chose, et ben, mec, il prend un temps fou, alors que si jamais il se retourne et il dit à sa sœur qui est en train de... Bon, sa sœur est un peu con, tu vois, mais derrière lui, tu vois, il est en train de faire des paperasses, machin, et il lui dit un truc, et hop, paf. Je continue. Non pas qu'elle me le dise, la solution qu'il cherche, non pas qu'elle me le dise à proprement parler, car elle ne connaît pas le code, tu vois, c'est une conne, quoi. Pas plus qu'elle n'a étudié Euler ou Kreisner, encore plus conne. Non. Ni non plus qu'elle m'amène par d'habiles questions au point qui importe. Tu vois, genre, c'est une grosse bouse, quoi. Bon, pardon, là, je suis en train de complètement niquer ton texte, mais t'es un peu précieux aussi. Ni non plus qu'elle... Oui, je ris d'un rien. Donc on est dans le bureau de Kleist, il cherche un truc, puis il comprend pas, puis ça met des heures, puis il demande à sa sœur, hein, d'accord? Ni non plus qu'elle m'amène par d'habiles questions au point qui importe, encore que ce dernier cas puisse fréquemment se produire. Mais comme j'ai tout de même quelque chose, quelques vagues notions qui, avec la chose que je cherche, entretient de loin un certain rapport, alors l'esprit, pour peu que je m'empare avec audace de cette amorce, et cependant que la parole, contrainte de donner une fin à ce début, va de l'avant, L'esprit imprime à cette représentation confuse une évidence parfaite, tant et si bien que la connaissance, pour mon étonnement, survient quand s'achève la période. Ça, c'était écrit, hein, les gars. Sur vos blogs et tout, là, vous me faites bien rire. Bon. J'y mêle des sons inarticulés, étire en longueur les mots de liaison, et recours aussi bien à une apposition là où il n'y en aurait pas besoin, et utilise d'autres artifices propres à allonger le discours afin de gagner le temps nécessaire à la fabrication de mon idée dans le laboratoire de la raison. Ce faisant, rien de plus salutaire pour moi qu'un mouvement de ma sœur, comme par désir de m'interrompre, car mon esprit, au demeurant déjà bandé, dans cette tentative pour lui ravir une parole dont il est le détenteur, ne fait que s'exacerber davantage et s'efforce, comme celle d'un grand général pressé par les circonstances, se tendre encore d'un degré. Dans ce sens, je conçois de quelle utilité a pu être à Molière sa servante, lorsque, en effet, comme il le prétend, il lui sait gré d'opinions qui viennent corriger les siennes. J'y vois une modestie au fond du cœur sur l'existence de laquelle j'ai des doutes. Il y a une étrange source d'inspiration pour celui qui parle, dans un visage humain qui lui fait face, et un regard par lequel nous devinons comme déjà comprise une pensée à demi énoncée nous suggère souvent une formulation pour la moitié qui manquait encore. Main grand orateur, je le crois, à l'instant d'ouvrir la bouche, ne savait pas encore ce qu'il allait dire, mais persuadé qu'il a puisé dans les circonstances et la tension d'esprit qui en résulte la profusion de pensées nécessaires, il y trouve assez l'audace pour s'embarquer à la bonne fortune. C'est exactement ça, mon petit Van Kleist, tu as tout compris. Il me revient ce trait de foudre qui permit à Mirabeau de se débarrasser du maître des cérémonies lorsque ce dernier, après la dissolution de la dernière séance de la monarchie, le 23 juin, au cours de laquelle le roi avait donné ordre aux États de se séparer, se représenta dans la salle des débats où les États encore s'attardaient pour leur demander s'ils avaient entendu l'ordre du roi. « Oui, répondit Mirabeau, nous avons entendu l'ordre du roi. Je suis certain qu'avec cette entrée en matière pleine de civilité, il ne songeait pas encore à la baïonnette qui lui servit de conclusion. « Oui, monsieur, répéta-t-il, nous l'avons entendu. » On voit qu'il ne sait pas encore au juste ce qu'il veut. « Mais qu'est-ce qui vous permet ? » poursuit-il. Et c'est là tout à coup que s'ouvre en lui la source d'idées inouïes. « De nous donner ici des ordres, nous sommes les représentants de la nation. » C'était là ce dont il avait besoin. La nation donne des ordres et n'en reçoit point, pour s'élancer aussitôt au fait de l'outrecuidance, et afin de m'expliquer très clairement, c'est alors seulement qu'il trouve ce qui exprime toute la résistance de son âme, se sent ici armé. Eh bien, dites à votre roi que nous ne quitterons pas nos places autrement que par la force des baïonnettes. Et là-dessus, content de lui, il s'assit sur une chaise. Quant au maître de cérémonie, si on songe à lui, on ne peut se l'imaginer, après une telle algarade, autrement que l'esprit entraîné dans une totale banqueroute. Selon une loi analogue à celle qui veut qu'un corps à l'état de neutralité électrique, si on le plonge dans l'atmosphère d'un corps électrisé, se charge brusquement d'une électricité contraire, et de même que dans un corps électrisé, en retour, le degré d'électricité qu'il habite se trouve ainsi renforcé, de même chez notre orateur, le courage s'est-il transformé en la plus téméraire des exaltations face à l'anéantissement de son adversaire. Peut-être que, de la même manière, ce fut, en fin de compte, la crispation d'une lèvre supérieure ou un jeu de manchettes équivoque qui produisit en France le bouleversement de l'ordre des choses. C'est magnifique. Peut-être que, parce que c'est ça en fait, peut-être que, de la même manière, ce fut, en fin de compte, la crispation d'une lèvre supérieure ou un jeu de manchettes équivoque qui produisit en France le bouleversement de l'ordre des choses. Amis blogueuses, amis blogueurs, prenez-en de la graine. Mirabeau, peut-on lire ? À peine le maître des cérémonies éloigné se leva et proposa, primo, de se constituer sur-le-champ en Assemblée nationale et, secondement, de la déclarer inviolable. S'étant en effet déchargé comme une bouteille de Kleist, il avait retrouvé sa neutralité et, soudainement, revenu de son audace, il donnait prise à la crainte du Châtelet et à plus de prudence. Il y a là une consonance remarquable entre les manifestations du monde physique et celles du monde moral, et qui se confirmait, si on voulait la poursuivre, jusque dans ses incidences. Mais, renonçant à cette comparaison, j'en reviens à mon sujet. La Fontaine lui-même, dans la fable « Les animaux malades de la peste », où le renard est obligé de faire l'apologie du lion sans savoir où en puiser la substance, fournit un étonnant exemple d'élaboration progressive de la pensée à partir de prémices imposées par la détresse. Putain, ça c'est de la phrase, quoi. Je recommence rien que pour le plaisir. La Fontaine lui-même, dans la fable « Les animaux malades de la peste », où le renard est obligé de faire l'apologie du lion sans savoir où puiser la substance, fournit un étonnant exemple d'élaboration progressive de la pensée à partir de prémices imposées par la détresse. La fable est connue. La peste fait rage au royaume des animaux. Le lion rassemble ses dignitaires et leur déclare que le ciel, pour être apaisé, exige un sacrifice. Qu'il y a dans le peuple de nombreux pécheurs, que la mort du plus grand nombre d'entre eux doit sauver les autres de l'extermination. Qu'ils viennent donc lui confesser sans fard leurs égarements. Lui-même, il avouait, harcelé par la faim, avoir donné le coup de grâce à maint mouton, aux chiens aussi, lorsqu'il s'était trop approché. Il s'était même surpris dans des moments de gourmandise à dévorer le berger. Si personne n'avait de plus grande faiblesse sur la conscience, il était prêt à mourir. « Sire, dit le renard, soucieux de détourner de lui l'orage, vous êtes trop magnanime. Votre noble zèle vous entraîne trop loin. Égorger un mouton, qu'est-ce que cela? Ou un chien, cette brute abjecte? Et quant au berger, enchaîne-t-il, car c'est là le nœud du problème, on peut dire, bien qu'il ne sache pas encore quoi, qu'il méritoit tout mal au petit bonheur et le voilà empêtré, étant, creuse rhétorique, mais il y gagne du temps, de ces gens-là, et c'est ici seulement qu'il trouve l'idée qui va le tirer du péril, qui sur les animaux se font un chimérique empire. Et il montre alors que c'est l'âne le plus assoiffé de sang, lui qui ingurgite toute verdure, la victime la plus propice, et tous de se ruer sur lui pour le déchiqueter. Manière ainsi la parole, c'est vraiment penser à voix haute. La suite des idées et leur mise en mots cheminent main dans la main, et il y a congruence entre les actes mentaux qui conduisent à l'une et à l'autre. La langue, alors, n'est pas une entrave, comme, disons, un frein sur la roue de l'esprit. C'est comme une seconde roue qui parallèlement entraîne le même axe. Il en va tout autrement si l'esprit, déjà, avant même toute parole, en a terminé avec la pensée, car il doit alors se borner à en être la simple expression, et cette tâche, bien loin de le stimuler, a pour unique effet de relâcher son exaltation. Aussi, lorsqu'une idée s'exprime de manière embrouillée, il ne s'ensuit pas du tout que la conception en a été embrouillée. Il se pourrait plutôt que celle dont l'expression est la plus confuse soit justement celle dont la conception a été des plus claires. On voit souvent, dans une société où une conversation animée entretient dans les esprits la fécondation ininterrompue d'idées, des gens qui, sentant qu'ils ne maîtrisent pas le langage, se tiennent d'habitude en retrait, s'enflammer soudain, tout frémissant, usurper la parole et accoucher de choses incompréhensibles. Oui, on dirait qu'après avoir attiré sur eux l'attention de tous, ils veulent faire comprendre, par une gesticulation empruntée, qu'ils ne savent plus bien eux-mêmes ce qu'ils ont à dire. En toute vraisemblance, ces gens-là ont conçu, et de façon claire, quelque chose de très pertinent. Mais en changeant brutalement d'activité, et leur esprit passant de la pensée à l'expression, toute leur exaltation, requise maintenant pour brider la pensée, comme elle l'avait été, pour l'amener au jour et retomber. Il est indispensable, dans ces cas-là, de disposer de la parole avec aisance si nous voulons que s'enchaînent, au moins sans trop d'intervalle, les choses que nous avons pensées en même temps, mais que nous ne pouvons pas dire en même temps. Et, somme toute, celui qui parle, à lucidité égale, plus vite que son adversaire, aura sur lui l'avantage parce qu'il jette, pourrait-on dire, dans la bataille, plus de troupes que l'autre. Toute la politique est là-dedans, mes amis, mes frères, mes sœurs. Toute la domination des uns sur les autres est là-dedans. Donc, qu'une certaine tension de l'esprit est indispensable, ne serait-ce que pour engendrer à nouveau des idées que nous avons déjà eues, on le voit souvent lorsqu'on interroge des intelligences libres et instruites, à brûle pour point, sur des questions comme celle-ci. Qu'est-ce que l'État ? Ou encore, qu'est-ce que la propriété ? Ou d'autres du même genre. Ces jeunes candidats, s'ils s'étaient trouvés dans une société où l'on a devisé depuis un moment déjà sur l'État ou la propriété, auraient trouvé sans doute, en comparant, éliminant ou résumant les conceptions, une bonne définition. Mais ici, leur esprit n'ayant pas été préparé, on les voit rester muets, et seul un examinateur borné en conclura qu'ils ne savent pas. Car ce n'est pas nous qui savons, c'est avant tout une certaine disposition de notre être qui sait. Seuls des esprits très ordinaires, les gens qui ont appris par cœur, la veille, ce qu'est l'État, et qui le lendemain l'oublieront, auront ici la réponse sous la main. Et là-dedans, il y a tout le principe d'éducation, l'université, toute cette merde, tous ces connards, plein de diplômes qui croient que... Ils sont devenus les rois du monde parce qu'ils ont appris deux choses, mais qui n'arrivent pas à faire des liens. Enfin, soit. Non, ça c'est toute ma pile qui remonte. Bon. Peut-être n'y a-t-il au demeurant pas de pires circonstances pour se montrer sous un jour défavorable que justement un examen public. Ça c'est toute l'histoire de ma vie. Sans compter qu'il est déjà pénible et blessant pour un être sensible et que cela peut l'inciter à se montrer rétif. De voir un maquignon de cet acabit, un érudit, sonder nos connaissances et, selon que nous en avons 5 ou 6, nous acheter ou nous écarter. Il est si difficile d'agir sur l'âme et de lui arracher une voix qui lui est singulière. Elle se désaccorde si vite, sous des mains malhabiles, que même le plus exercé des praticiens de la nature humaine, le plus magistralement doué dans l'art d'accoucher les pensées, pour reprendre l'expression de Kant, là encore risque de se tromper parce qu'il connaît trop peu son parturient. Ami professeur, relisez 15 fois ce texte. La maïeutique donc, hein, l'art de l'accouchement. L'art de l'accouchement des idées, évidemment. Si, au demeurant, ces jeunes gens, même les plus ignares, obtiennent dans la majorité des cas un bon certificat, c'est que les examinateurs eux-mêmes ont, lors d'une épreuve publique, l'esprit trop embarrassé pour pouvoir juger en toute liberté. Non seulement ils ressentent l'indécence de toute cette procédure, on aurait déjà honte à exiger de quelqu'un qu'il déverse devant nous le contenu de sa bourse, à plus forte raison de son âme, mais leur bon sens doit se soumettre ici à une dangereuse inspection, et il leur faut souvent remercier Dieu de pouvoir quitter l'examen sans avoir dévoilé leur faiblesse, ce qui serait plus humiliant pour eux que pour le jeune homme tout juste sorti de l'université qu'ils viennent d'examiner. Heinrich von Kleist, de l'élaboration progressive des pensées dans le discours, traduit de l'allemand et présenté par Jean-Claude Schneider. Mes chers petits amis, je vais aller faire un gros dodo et je vous embrasse tout doux dans le cou.